Radio Okapi. Le journal à la présentation grâce à Hamzati.
Inauguration ce mercredi à Kinshasa d'une unité neurovasculaire par le centre hospitalier Monkolé. Cette unité est constituée de tous les médecins spécialistes impliqués dans la prise en charge des maladies neurovasculaires, autrement dit AVC. Plus de 300 maisons complètement inondées dans le site Sikotra Lokali, qui abrite également l'hôpital Maman Olive Lembe dans la commune de Lancélé, ici à Kinshasa, à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale mardi dernier. Le procureur chargé de l'éthique et discipline au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature est notre invité. Maurice Echiki Pangando nous parle d'un atelier de 5 jours sur l'éthique, la déontologie professionnelle des magistrats ainsi que la lutte contre les violences sexuelles, atelier organisé dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo. À toutes et à tous, bonjour. Santé pour commencer. Le centre hospitalier Monkolé a inauguré une unité neurovasculaire ce mercredi ici à Kinshasa. La cérémonie a eu lieu à l'amphithéâtre du CFA Monkolé dans la commune de Mongafula. Cette unité est constituée de tous les médecins spécialistes impliqués dans la prise en charge des maladies neurovasculaires, autrement dit AVC. Cette unité neurovasculaire est soutenue par l'association ISA Africa, regroupant différents médecins et spécialistes italiens. Arcel Kajuru a assisté à cette cérémonie. Voici son reportage.
Après la coupure du ruban, devant la nouvelle salle baptisée Unité neurovasculaire, Edermbi Mabiala, directeur général du centre hospitalier Monkolé, présente le personnel de cette nouvelle unité.
Pour prendre en charge les AVC, comme l'a souligné le médecin directeur, c'est tous les corps des métiers médicaux et paramédicaux. Il y a de l'importance pour la place du diagnostic, donc l'imagerie, le laboratoire, le cardiologue, le neurologue, le médecin de famille sur la partie préventive, le kinésithérapeute pour la rééducation du patient, un système stratosphérique qui prend plusieurs corps de métier au sein de l'hôpital.
Anne Falco, neurologue et membre de l'association ISA Africa, parle de mesures préventives à prendre au quotidien pour éviter tout type de maladies liées au neurovasculaire.
Il faut manger correctement, pas trop de sel, attention aux boissons sucrées, attention à la quantité de ce qu'on mange, à la qualité de ce qu'on mange, mais aussi pour pouvoir avoir un poids conforme, pas être surpoids, bouger régulièrement, parce que nous on a noté que plus de la moitié des personnes qu'on a dépistées étaient en surpoids.
Le centre hospitalier Monkolé et l'association ISA Africa prévoient d'étendre ce projet dans d'autres centres Monkolé de Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces de la RDC.
Dans le même chapitre, la lutte menée contre le Mpox au sud Kivu par la division de la santé n'a pas exclu les agents du parc national de Kahuzi-Biega, les écogardes en particulier. Ce patrimoine mondial héberge diverses espèces animales apparentées au singe qui est pourtant le vecteur de la maladie. Le chargé de communication de ces parcs rassure que les espèces du PNKB ne sont pas atteintes des Mpox. C'est un reportage de Jean Kassami.
La division provinciale de la santé au site Kivu a mené deux activités majeures auprès des agents, y compris les écogardes du parc national de Kahuzi-Biega, en vue de lutter contre le monkeypox, la sensibilisation d'abord, la vaccination s'en est ensuite suivie. Deux activités menées successivement par la division provinciale de la santé en collaboration avec l'UNICEF et les réseaux des médias pour le développement. Pour la division provinciale de la santé Sud Kivu, sensibiliser les agents du PNKB et les vacciner contre le monkeypox est une approche louable pour couper la chaîne de contamination de l'animal à l'homme, surtout que ce sont ces catégories de personnes-là qui sont en contact permanent avec les animaux du patrimoine mondial PNKB. Toutefois, Bray Munganga, chargé de communication au PNKB, rassure que la faune sauvage du parc est exempte du virus de monkeypox.
Jusque là, les animaux du parc sont surveillés. Si vous allez sur notre site internet, vous allez voir qu'il y a des suivis et que aucun animal suivi par le parc n'est atteint d'impox.
À noter que 3800 cas de monkeypox se sont recensés au sud Kivu depuis l'apparition du virus. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
La sexualité reste un sujet tabou dans de nombreuses sociétés africaines. Entre pudeur et tradition, la région de Béni au Nord Kivu n'y échappe pas. En famille, on en parle souvent peu, voire pas du tout. Pourtant, avec l'évolution de la société et l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les jeunes sont exposés à la sexualité de plus en plus tôt. Les parents suivent-ils cette évolution? Grévy Salomon.
Des fois, ma mère, a le temps de m'en parler. Ça m'aide à me protéger, à prendre soin de moi, de voir où sont mes limites.
Ce témoignage est de Riziki Masika, une jeune femme d'une vingtaine d'années. La sexualité, tout comme la mort, fait partie des sujets que la plupart des parents abordent rarement avec leurs enfants. Même lorsqu'un enfant demande à ses parents, je cite, « Comment fait-on un enfant ?» Les réponses sont souvent vagues, gênées et éloignées de la réalité. La cause, le poids des traditions et de la complexité des relations parents-enfants. Une difficulté que reconnaît Maggie Panza est parent interrogé.
Franchement, cette thématique est difficile à parler aux enfants et cela culturellement même. Ce n'est pas du tout facile.
Alors que recommandent les spécialistes des questions d'éducation? Liliane Moussavouli est responsable de l'ONG Femme Leader pour le progrès de la jeune fille.
Alors c'est pour notre bien quand nous avons ce courage-là de préparer les jeunes filles surtout avant que ça ne soit tard. Parce que quand il y a des conséquences, c'est à ce moment-là que nous avons des choses à dire maintenant aux filles. Alors c'est mieux vraiment de prévenir des gens de le bas âge.
Cependant, avec l'évolution des mentalités et surtout la révolution des technologies de l'information, la sexualité n'a presque plus de secrets pour les enfants aujourd'hui. Benny Grévy Salumou, Radio Okapi.
Comme dit au sommaire, plus de 300 maisons complètement inondées dans le site Sikotra Lokali, qui abrite également l'hôpital Maman Olive Lembe, dans la commune de Lancélé, à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue mardi sur la capitale. On a enregistré également des dégâts matériels, des maisons détruites dans le quartier Sabrina, près des Bibois. On écoute à ce sujet le bourgmestre de Lancélé, Mbo Zolame Sofranc, joint par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Après la pluie, nous avons eu enregistré pas mal de dégâts. Je commence d'abord par le quartier Sikota Lokali, là où l'ancien premier dame a érigé son hôpital, l'hôpital Maman Olive. Il y a plus de 300 familles qui sont inondées. C'est beaucoup plus l'OVD qui, en principe, pendant qu'il était en train de construire cette route qui amène vers l'hôpital, il y avait une canalisation. Ça menait l'eau de la pluie vers le fleuve Congo. Cette canalisation a été bloqué au profit de la construction de l'hôpital de Maman Olive. Raison pour laquelle aujourd'hui nous assistons dans ce genre des inondations. Et également nous avons aussi enregistré du côté Sabrina vers le quartier Bibois. Ces quartiers-là également sont aussi inondés. D'ailleurs là-bas ce sont beaucoup plus des cas plus graves parce que là-bas ce n'est pas seulement une question d'inondation. Mais il y a aussi des maisons qui ont été détruites à cause notamment de la pluie. Nous demandons à l'OVD de venir très rapidement, continuer les travaux. Nous demandons au gouverneur de la ville de s'impliquer.
Et puis, les coupures intempestives de l'énergie électrique à Kalemie dans les Tanganyika ces derniers jours sont dues à la vétusté du réseau de distribution de la ville. Propos du chef des divisions de la SNEL chargé de la production et transport des Bendera, lundi, au cours d'une conférence de presse. Marcel Sagalikaite rappelle aussi que pendant cette période pluvieuse, il y a plusieurs coupures de l'électricité. Selon lui, le réseau de distribution est vétuste et nécessite un assainissement. Marcel Sagalikaite est au micro de Paul Munanga.
Les coupures intempestives, ce sont des aléas dus à la vétusté du réseau de distribution de la ville de Kalemie. La réduction des coupures intempestives aura comme solution l'assainissement du réseau de distribution de Kalemie. Le support qui tient les poteaux, les isolateurs, les conducteurs, tout ça doit être remplacé. Il y a la cabine, tout doit être remplacé. Il n'y a plus de disjoncteur, il n'y a plus de sectionnaire. Donc il faut d'abord réunir ces moyens pour pouvoir faire cet assainissement ou cette réhabilitation. Nous sommes pendant la saison pluvieuse et pendant cette période, attendez-vous à des coupures. Quand il pleut, nous avons beaucoup de points faibles, les boîtes souterraines, l'eau entre la base. Et pendant la saison pluvieuse, il y a même des intempéries dues à l'atmosphère.
Par ailleurs, dans le territoire de Songololo, au Congo central, 5 détenus se sont évadés du cachot de Kimpesi mardi dans la soirée. Le procureur près le tribunal d'épée de Songololo qui confirme cette information a fait savoir que ces détenus au nombre de 21 ont, durant une semaine, creusé un trou dans le mur sans que les responsables du cachot ne s'en aperçoivent. Selon Dieudonné Mambou, la vétusté du bâtiment abritant ces lieux de détention et l'absence des policiers en permanence sur les lieux sont à la base de cette évasion. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurichimam.
Hier, nous avons eu l'information qu'il y aurait une tentative d'évasion. Alors, le service de sécurité était là. Dans la cellule, il y avait 20 paires détenus. Alors, 5 se sont évadés, 4 à disposition du parquet et 1 à disposition de l'auditorat. L'évasion, c'est la solidité du bâtiment. Alors, il y a un trou qu'ils ont commencé à creuser et vu l'ancienneté du bâtiment, ils ont forcé les murs pendant une semaine, petit à petit. Il y a 5 détenus qui ont fui. Alors, mettre les policiers derrière là-bas, de manière permanente, sans guérir sous la pluie, vous voyez ce que ça fait. Ils défoncent. Mettre la main dans la pâte pour essayer de réfectionner cet amigo. Parce que derrière, il n'y a pas de guérite. Ni tété, la police, ça allait être encore pire. Heureusement que le colonel avait dépêché des policiers qui ont veillé. Ils ont empêché une évasion spectaculaire. Parce que vous pouvez trouver la prison vite. Et bien, la population, soyez tranquille. La situation est sous contrôle. Ceux qui ont évadé, il y a déjà des avis de recherche qui ont été lancés contre eux. Je pense que dans les 48 heures, on mettra la main sur eux.
Cette autre nouvelle sur Radio Okapi. Au Nord Kivu, une dizaine de journalistes des radios communautaires d'Oicha et de Ringeti dans les territoires de Beni ont été sensibilisés dans la ville de Beni. Mercredi, sur le mandat de la MONUSCO ainsi que sur la lutte contre la désinformation et les discours de haine. C'était lors d'un échange à la demande des participants avec le chargé des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO à Beni. Échange qui a porté sur l'historique de la MONUSCO, son fonctionnement, son financement, l'origine de ses casques bleus, son rôle aux côtés des autorités congolaises dans la lutte contre les groupes armés. Les participants affirment que cette sensibilisation leur permettra de mieux faire leur travail sans verser dans la mésinformation ou désinformation, surtout dans le traitement des informations relatives à la MONUSCO. On écoute Dassis Kibonde, journaliste à la radio Mungano d'Oicha, au micro de Guylaine Kassassia.
Nous sommes venus pour faire un échange avec la MONUSCO. C'était dans le cadre de savoir ce que fait la MONUSCO. Alors nous osons croire que cet échange nous est très bénéfique parce qu'elle va nous servir, nous en tant que personnel des médias, dans la rédaction de nos articles. Et nous qui serons là en d'atténuer la propagation de messages, de la désinformation, de la mésinformation que certaines gens font à l'égard de la MONUSCO. C'est nous qui avons demandé cette formation. Nous étions motivés parce que nous sommes dans une région qui est insécurisée, où il y a des messages de conflits, des haines qui se multiplient de temps en temps. Alors nous avons pu croire qu'à partir de ces échanges ici, nous allons améliorer notre plume. Les gens, des fois, se trompent, pensent que la MONUSCO était venue au Congo pour finir la guerre. Mais Dieu merci, à partir de ces échanges ici, nous avons su que la MONUSCO était venue en République démocratique du Congo en appui au gouvernement congolais. C'est-à-dire que nous avons cette responsabilité d'appuyer la MONUSCO qui travaille avec notre gouvernement dans notre zone ici. Si vous voulez parler de quelque chose qui concerne la MONUSCO, c'est mieux d'avoir de vous ressourcer auprès de la MONUSCO. Parce que si vous vous mettez dans le plaisir de diffuser ce que vous ne connaissez pas, vous risquez de brûler la communauté. Parce qu'on dit que la parole est une arme qui brûle, soit qui sauve la communauté.
Actualité internationale.
Au Gabon, c'est l'ouverture de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel prévu le 16 novembre en cours. Ces jours-là, les Gabonais seront appelés aux urnes pour voter par un oui ou non sur le projet de la constitution du pays qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Ce projet divise les Gabonais. Présidentielle américaine, Kamala Harris concède sa défaite et appelle à continuer à se battre. La vice-présidente démocrate a pris la parole au lendemain de sa défaite face à Donald Trump, reconnaissant l'issue du scrutin. Les électeurs démocrates peinent à cacher leur déception face aux résultats.
L'invité.
Notre invité, comme nous l'avons dit, c'est le procureur chargé de l'éthique et discipline au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Il a clôturé le lundi à Kisangani dans la Tchopo un atelier de 5 jours sur l'éthique, la déontologie professionnelle des magistrats ainsi que la lutte contre les violences sexuelles. Cet atelier, appuyé par l'agence belge de développement Enabel, a regroupé aussi bien les magistrats civils que militaires de la province de la Tchopo. Maurice Echike Pangando s'entretient avec Jacques Mukongole.
Monsieur le procureur, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur.
Que peut-on retenir de cet atelier que vous venez d'organiser ici à Kisangani, à Joli Rêve?
Pour nous, ça a été un atelier qui a consisté à une mise à niveau des magistrats, tant civils que militaires, les rappeler les principes éthiques, déontologiques ainsi que disciplinaires qui doivent guider le comportement des magistrats dans ce qu'ils sont appelés à faire comme travail, particulièrement en matière de violence sexuelle. Et on s'est compris, on attend à ce que, après cet atelier, les magistrats arrivent à respecter ces principes qui leur ont été inculqués.
Les notions apprises n'étaient qu'un rappel, vous l'avez dit d'ailleurs. Pensez-vous que ce renforcement des capacités à lui seul soit suffisant pour amener les magistrats à dire le bon droit?
Il faut d'abord dire que même lorsqu'on était à l'université, ce n'est pas qu'on a retenu ou bloqué toutes les disciplines du droit, non. Et dans la pratique, lorsque on fait une remise à niveau, un renforcement des capacités, c'est pour voir la théorie que nous avons apprise à l'université et la pratique et la réalité que nous affrontons, s'il y a moyen d'évoluer. Ici, ce n'est pas des cours académiques, non. Ce sont des expériences, échanges d'expériences dans la pratique. Et nous espérons que pour un magistrat qui veut bien évoluer dans sa carrière, il ne peut bien le faire qu'en respectant en dehors de la science, mais aussi les principes éthiques, déontologiques qui guident, qui encadrent cette profession. Et c'est ça qui nous a été recommandé par le président du CSM. Inculquer d'abord, parce que les problèmes de notre société, c'est d'abord éthique. Les textes sont là, mais soit on n'a pas la matière, soit on n'a pas la conscience. Or, si nous avons la matière, inculquons maintenant, éveillons la conscience dans le travail du magistrat. Et c'est pour là que nous allons répondre à la vision du chef de l'État qui voudrait que nous arrivions à combattre l'antivaleur. Lorsqu'on ne respecte pas l'éthique de la profession, vous ne saurez pas combattre les antivaleurs.
Monsieur le procureur, vous ne voyez pas que l'État a aussi un grand rôle à jouer. Quelles sont les mesures d'accompagnement que l'État prévoit pour justement que les magistrats fassent correctement leur travail?
Oui, l'État c'est un tout. Dans l'État, il y a aussi nous. Nous devons jouer notre rôle, nous devons jouer notre partition. Avant d'appeler le gouvernement, la population, c'est vrai, la justice, lorsqu'on parle de la justice, c'est pas forcément seulement le magistrat. C'est toute une chaîne. Si vous avez vu ici, pratiquement tous les services. Mais ici, c'est seulement l'aspect des violences sexuelles. Si vous avez le domaine environnemental, vous verrez toujours cette complexité. Mais au moins, le creuset, le sanctuaire, l'entonnoir de la société, c'est le magistrat qui doit filtrer en dernier ressort. Alors, celui qui ne veut pas respecter les principes, les mesures d'accompagnement, pour nous, c'est la sanction. Par exemple, nous avons préféré prévenir d'abord, rappeler les notions avant de passer à la sanction qui pourra provenir de la procédure disciplinaire et que nous leur avons rappelé encore.
Et la population a-t-elle aussi un rôle à jouer dans ce travail de la magistrature?
Justement, c'est comme ça qu'on a associé aussi les organisations des droits humains, les avocats. Nous avons associé parce que c'est eux qui sont souvent en contact avec la population. Par moment, la justice est mal vue suite à l'ignorance du droit et de la procédure. Chaque citoyen croit que ce qu'il a dans sa tête, c'est ça les droits. Les droits, ce n'est pas seulement les faits, il y a aussi des procédures. Et tout ça, ce n'est pas réglementé ou dicté par le magistrat. Le magistrat subit par moment des contraintes légales, des procédures, qui font que par moment, les justiciables soient ignorants de la procédure. Et lorsqu'on va rendre la décision, par ignorance, les autres diront non, le magistrat a mal dit les droits. Pourtant, c'est les vrais praticiens du droit sincères savent par moment que tout ce qu'on on jette comme opprobre au magistrat n'est pas toujours fondé. Parce qu'un judiciaire ne comprendra pas que nous ne sommes pas saisis, qu'il y a irrécevabilité. Il ne va pas comprendre ça.
Alors, que doit faire la population?
Non, la population doit être... Ce n'est pas que toute la population ou chaque individu doit maîtriser les méandres du droit. Non, c'est qu'on doit les accompagner, les populations.